En introduction de cette prédication, je voulais juste partager quelque chose de particulier que j'ai vécu dans sa préparation. Ça fait quelque temps qu'on est dans le Nouveau Testament et je me suis dit, la prochaine fois que c'est moi qui apporte la prédication, j'aimerais bien qu'on puisse plonger nos regards dans l'Ancien Testament. Et j'ai été travaillé dernièrement par l'histoire de Naaman. Alors, j'ai lu tout le chapitre 5 du livre de Deux Rois dans l'Ancien Testament qui nous relate l'histoire de Naaman. Et quand je suis arrivé à la fin de l'histoire, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une partie de la vie de cette histoire de Naaman que j'avais oubliée. Et notamment, toute la fin de son histoire. Je me rappelais globalement de ce qui se passait jusqu'à sa conversion et puis quelles avaient été un petit peu les conséquences de sa conversion. Mais j'avais totalement oublié ce qui se passe ensuite et ce qui se passe notamment avec un des serviteurs d'Élisée, du prophète Élisée, qui s'appelle Géasi. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça me parle plus, cette histoire? Et je me suis rendu compte que on a entendu cette histoire à l'école du dimanche. Et souvent, on va jusqu'à cette conversion de Naaman. Et puis, j'ai pris encore une Bible pour enfants qu'on a à la maison. La Bible te raconte Jésus. Et puis, j'ai été voir. Je sais qu'il y avait cette histoire. Et là encore, cette histoire s'arrête à la conversion de Naaman et nous parle donc de l'orgueil de cet homme qui va devenir humble et reconnaître que Dieu, le Dieu d'Israël, est le seul Dieu. Mais pas de Géasi. J'ai écouté une ou deux prédications sur Naaman et les deux prédications s'arrêtaient aussi à la conversion. Alors, et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas cette partie de Géasi? Est-ce que c'est parce que le passage est trop long? Et en fait, quand j'ai commencé à étudier ce passage et à essayer de trouver quelle était l'idée centrale que l'auteur voulait faire ressortir, j'arrivais pas à combiner ce qui se passait dans le début de la vie de Naaman avec ce qui se passe avec ce serviteur Géasi. Et comme je n'arrivais pas, que j'avais du mal, je me suis dit, c'est pas grave, on va partir sur ce qu'on connaît, là on se sent sûr. Et je me suis préparé à faire une prédication pour parler comment Dieu, quand on le rencontre, transforme notre orgueil en humilité. Et je suis arrivé samedi, donc hier matin, et j'avais quasiment ficelé ma prédication. Et vous savez, on avait notre troisième rencontre de formation à la prédication avec quelques personnes de l'église. Et à un moment donné, il y a Eric qui nous partage et dit, quand on étudie un texte, c'est vraiment important de voir où est-ce qu'on voit les personnages de ce texte à d'autres moments. Et ça m'est revenu et je me suis dit, mais je suis pas tranquille de parler que de cette partie de la vie de Naaman. Il faut l'histoire de Naaman, c'est tout ce chapitre 5. Et j'ai envie ce matin de pouvoir partager tout ce chapitre 5. Et puis la formation c'est terminé et d'un coup j'ai une lumière, le Seigneur m'a montré et m'a dit mais oui. Ça y est, voilà le lien entre la vie de Naaman et puis cette histoire avec le serviteur Géasi. Et c'est tout à fait juste de parler de l'orgueil de Naaman qui va s'humilier et confesser et reconnaître Dieu comme le grand Dieu d'Israël. Mais cette histoire avec Géasi qui va aller chercher la fortune de Naaman nous amène à considérer l'ensemble de l'histoire sous un autre angle. Et cet angle, c'est l'angle de l'idolâtrie. Alors, j'ai intitulé le message ce matin, « Est-ce que Dieu a l'exclusivité dans nos vies ?» Et alors, pour ceux qui suivent cette formation, voilà l'idée centrale, et c'est pour chacun de nous ce matin, si vous devez repartir et ne retenir qu'une chose de tout ce qui sera partagé. C'est parce que Dieu est le seul Dieu sur toute la terre. Abandonnons nos idoles pour l'adorer lui seul. Parce que Dieu est le seul Dieu sur toute la terre. Abandonnons nos idoles pour l'adorer lui seul. Alors juste un petit mot de contexte concernant cette histoire. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, passe par une période sombre, spirituellement parlant. En fait, le peuple de Dieu, Dieu avait choisi son peuple pour qu'il soit en relation avec lui, qu'il puisse l'adorer lui seul. Mais il est gouverné par des rois qui sont évalués dans la parole de Dieu à leur capacité à amener le peuple à se tourner vers Dieu ou pas. Et les rois de ce peuple, à ce moment de cette histoire, un roi, Joram, est un roi qui est idolâtre, qui ne suit pas Dieu, qui oriente son peuple vers l'adoration de faux dieux, d'idoles. Et les destinataires de ce passage, eh bien, c'était les membres du peuple de Dieu qui étaient en exil. Les premiers ont reçu ces lettres, ces écrits du livre des rois étaient des membres du peuple de Dieu qui étaient en exil. Et ils devaient se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on est là? Et en relisant cette histoire de Naaman, ils ont dû se rappeler. L'auteur met le contraste entre le peuple de Dieu qui abandonne le Dieu d'Israël pour se tourner vers des idoles. Histoire de Naaman et l'histoire de cet homme qui est étranger au peuple de Dieu et qui va abandonner ses idoles pour se tourner vers Dieu. Pour le plan ce matin, je vous propose en trois points. Tout d'abord, on va parcourir ce récit. Ensuite, on va voir quelques enseignements de ce récit. Et on terminera par quelques applications de ce récit. Dans ce parcours du récit qu'on va faire ensemble, étape après étape, j'aimerais relever du coup deux mouvements. Le premier mouvement donc se trouve dans la première partie de cette histoire de Naaman. On va voir que Naaman, cet homme étranger au peuple de Dieu, va se détourner de ses idoles pour se tourner vers le Dieu d'Israël. Et le deuxième mouvement, des versets 20 à 27, on va voir l'histoire de ce serviteur Géazi, qui lui fait partie du peuple de Dieu et qui va être attiré par l'idolâtrie. Dans cette première partie, ce cheminement de Naaman, vous allez voir combien c'est intéressant de voir combien ce Dieu d'Israël est un Dieu de grâce et combien dans sa grâce il se révèle aux hommes. Prenons les trois premiers versets. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Et là, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Le décor est planté. On a la présentation de ce Naaman. Naaman qui est un grand homme, un homme très important. Il est donc syrien, et je l'ai dit tout à l'heure, étranger au peuple de Dieu. Le peuple de Syrie et le peuple d'Israël étaient en paix, mais c'est le peuple de Syrie qui dominait sur le peuple d'Israël. Et regardez le CV qui est dressé de cet homme. Il est chef de l'armée, autrement dit, pour quelqu'un aujourd'hui, très certainement le général des armées de France ou peut-être le ministre de l'Intérieur. Il a remporté de nombreux succès militaires. Il a de bonnes relations et de hautes relations avec des personnes bien placées. Et il s'entend avec son roi. Et il a même la haute estime de son roi. Il est présenté comme un homme fort et vaillant. En d'autres termes, quelqu'un de grande valeur pour le roi de Syrie. Et puis il est marié. Et puis il a une servante. On peut simplement dire qu'il a réussi dans sa vie. Il a du succès. Il est arrivé au sommet et il côtoie les plus grands de ce monde. Mais il y a deux mais. Un qui est sous-entendu et l'autre qui saute aux yeux. Le premier, c'est qu'il ne sait pas, encore que Dieu est celui qui lui a accordé les victoires contre Israël. Dieu est souverain. Il conduit la destinée de toutes les nations. Pas seulement la nation d'Israël, mais aussi la nation de Syrie et la France. Le deuxième mais, c'est plutôt un hélas. Hélas, ce grand homme qui a tout réussi, il a une faiblesse. Et cette faiblesse est une maladie, la lèpre. Alors, derrière ce mot, la Bible transcrit tout plein de maladies qui sont liées à des maladies de peau. Dans le meilleur des cas, cela va le conduire petit à petit à être isolé parce qu'il est considéré comme impur. Donc il va petit à petit s'isoler socialement. Et dans le pire des cas, cela peut le conduire jusqu'à la mort. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne guérit pas de la lèpre. Mais voilà, par cette faiblesse, Dieu va se révéler à lui. Et une petite lueur d'espoir arrive de cette petite servante qui a été capturée lors d'un raid en Israël et qui est à son service et qui va lui dire « Moi, je sais qui est-ce qui peut vous guérir. » C'est le prophète. Il y a un prophète dans le pays d'Israël. Un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. On poursuit. Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, c'est bien, rends-toi là-bas. Je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Ainsi Naaman se mit en route en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Pas pour lui, mais pour offrir. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Avec le succès de Naaman se rajoute, et c'est parfois lié, la richesse. Naaman est un homme riche. Il part donc sur recommandation de son roi et une lettre avec beaucoup, beaucoup d'argent. Dans la valeur de l'or et de l'argent actuel, il part avec 3 millions d'euros. Et il va s'adresser directement d'Israël. Alors on peut se poser cette question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il va voir le roi d'Israël alors que la servante l'a orienté vers le prophète en Israël ? Et il faut savoir que à cette époque et dans beaucoup de religions comme des religions encore aujourd'hui, en fait, si tu fais ce qu'il faut, eh bien, tu as la bénédiction des dieux. Les dieux vont te rendre prospère. Donc, je t'envoie vers le roi d'Israël, parce que si le roi d'Israël est roi, cela signifie qu'il a réussi dans sa vie. Et s'il a réussi, ça veut dire qu'il a la faveur de son Dieu. Et donc, qu'il peut certainement obtenir ce qu'il veut de son Dieu. Mais la réponse de ce roi, c'est « Fausse route, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le maître de la vie et de la mort. Seul Dieu peut guérir. » Et c'est une première leçon dans ce cheminement de Naaman. À propos de Dieu, seul Dieu est le maître de la vie et de la mort. Lui seul peut guérir Naaman. Les versets 8 à 13, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié ?» Élisée fait donc venir Naaman. Il a entendu ou appris par Dieu ce qui se passe. Et Naaman arrive donc chez Élisée, le prophète, l'homme de Dieu, sur son char et ses grands chevaux. C'était à l'époque signe de pouvoir. Naaman ne descend même pas de son char et il se campe là devant la maison du prophète et il attend. Quel orgueil, quelle arrogance, n'est-ce pas ? Mais Naaman va être confronté à un choc. Le prophète ne sort pas, mais il envoie son messager qui lui dit dans le Jourdain. Et cela provoque la fureur et la colère parce que Naaman, en plus d'adorer d'autres dieux que le Dieu d'Israël, a aussi des idoles dans sa vie. Et Naaman a fait de son succès et ce qu'il est devenu, une idole. Et il répond, « Je suis un grand homme qui mérite un accueil digne de ce nom. Pourquoi le prophète ne sort pas ? Il m'envoie qu'un serviteur. » Et puis, ce qui m'est demandé là, juste aller se tremper dans le Jourdain, même un enfant pourrait le faire. Cela ne demande aucun effort. Il n'y a rien de complexe dans tout cela. Moi, je suis un grand homme. Je peux accomplir des choses, des grandes choses, des choses difficiles, et je l'ai déjà fait pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et puis, c'est quoi cette eau du Jourdain qui est boueuse, qui semble sale ? C'est pas pour un homme de mon rang. Il y a 2 fleuves dans mon pays dont l'eau est claire, dont l'eau est bien plus pure que le Jourdain. Naaman s'était fait le film de sa guérison. Il avait déjà prévu comme tout allait se passer. Mais c'est une grosse déception. Il se voit tellement grand qu'il pense qu'il peut contrôler le petit Dieu d'Israël. Mais Naaman va apprendre une deuxième leçon à propos de Dieu et qui va le faire cheminer un pas de plus. Dieu n'est pas quelqu'un que je peux contrôler ou manipuler. Je ne peux rien exiger de lui ou prétendre mériter quoi que ce soit, ni par mon argent. Fort pour recevoir sa bénédiction. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Et Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisa persista dans son refus. Alors Naaman dit « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter. » Car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Seulement, que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante. Quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimmon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. Et Élisée lui dit, va en paix. Et Naaman le quitta. Tout ce que Naaman avait à faire, c'était croire Dieu sur parole et faire ce que Dieu lui demandait. Et c'est ce que Naaman a fait. Il ressort donc guéri, ce qui l'amène à cette énorme confession que même à cette époque d'Israël, on n'entendait pas de la bouche de son propre peuple. Je reconnais qu'il n'y a aucun notre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Et Naaman place sa foi dans ce Dieu d'Israël. Et il a ici une 3e leçon à propos de Dieu. Dieu ne traite pas avec les hommes que sur la base de sa grâce. Dieu ne traite avec les hommes que sur la base de sa grâce. Ce que Dieu donne est gratuit. Dieu attend des hommes qui lui fassent simplement confiance et qui lui obéissent. Et on voit le changement donc radical dans la vie de Naaman, une transformation de son cœur. Il va proposer de l'argent à Élisée pour sa guérison, mais il me semble ici que c'est plus quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. Vous savez, quand vous avez rencontré Dieu et que vous savez que vous avez été sauvé et que c'est la meilleure chose, il y a une joie profonde et de une reconnaissance profonde. Alors peut-être qu'il a encore un reste de ce désir de vouloir peut-être acheter, mais il me semble qu'il y a quand même plus une notion de reconnaissance. Mais Élisée refuse catégoriquement cet argent parce qu'il veut que toute la gloire de cette guérison revienne à Dieu. Alors, il demande de ramener un petit peu de terre. Là aussi, n'y voyez pas de l'idolâtrie. Parce qu'à l'époque, les gens pensaient que, et les nations païennes pensaient que les dieux étaient associés à un pays, à une nation. Et donc, dans la tête de Naaman, qui est tout jeune, converti, il se dit, le Dieu d'Israël est ici en Israël. Et moi, j'ai envie de l'adorer maintenant. Je veux l'adorer lui. Et du coup, je veux ramener un petit peu de terre, peut-être pour l'étendre et pouvoir adorer Dieu sur cette terre-là, puisque Dieu est attaché à une terre. Ou peut-être pour bâtir un autel et adorer Dieu. Et puis la 3e chose qui révèle cette transformation, c'est que Naaman se pose des questions qui ne se posaient pas jusque-là. Une question de conscience. Il sait qu'il va rentrer chez lui et il va être en relation avec son roi. Et puis son roi reste un adorateur des dieux étrangers. Et ils vont rentrer dans le temple. Et c'était la coutume de rentrer au bras de son N-1. Et quand il va s'incliner, ben Naaman va devoir aussi s'incliner. Mais c'est plus ce qu'il désire dans son cœur. Et Élisée le sait. Et il lui dit, va en paix. Naaman, un homme idolâtre, s'est tourné vers Dieu. Voyons maintenant Géasi, un homme du peuple de Dieu, qui devient idolâtre, qui se tourne vers une idole. Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit « Mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman, et il l'a laissé partir sans accepter aucun des cadeaux qu'il lui avait apportés. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le rattraper et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui. Notez ici le contraste. Élisée avait dit, aussi vrai que l'Éternel que je sers vivant, je n'accepterai rien. Gehazi, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le rattraper et je vais obtenir quelque chose de lui. Gehazi se mit donc à courir après Naaman. Lorsque celui-ci le vit accourir, il sauta de son char et se précipita vers lui. « Est-ce que tout va bien ?» lui demanda-t-il. « Oui, tout va bien, » répondit Gehazi. « Mon maître m'envoie te dire, à l'instant, deux jeunes disciples des prophètes viennent d'arriver chez moi de la région montagneuse d'Éphraïm. Peux-tu me donner pour eux 35 kilos d'argent, je te prie, et deux vêtements de rechange ?» Naaman lui dit, « Fais-moi le plaisir d'accepter 70 kilos d'argent. » Naaman double sa proposition. Il insista auprès de lui pour qu'il accepte et il mit lui-même les 70 kilos d'argent dans deux sacs qu'il lui donna. Il lui remit aussi deux vêtements d'apparat que deux de ses serviteurs portèrent devant Gehazi. Quand Gehazi fut arrivé à la colline située près de l'entrée de la ville, il prit les objets de leurs mains, les déposa chez lui et renvoya les deux serviteurs qui s'en allèrent. Puis il alla lui-même se présenter à son maître. Élisée lui demanda, « D'où viens-tu, Gehazi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé nulle part. » Mais Élisée lui dit, « Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre ? Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent et d'acquérir des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes ? Puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. » Alors Gehazi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Le focus est mis sur Gehazi, membre du peuple d'Israël, qui sert aux côtés du prophète, du grand prophète Élisée. Gehazi est au courant de la situation spirituelle de son propre peuple, un peuple qui s'est éloigné de Dieu pour adorer des idoles. Mais il se laisse séduire par cette quantité d'argent astronomique qui est en train de disparaître là, juste devant lui, et auquel il aurait pu avoir accès. Pourquoi est-ce que Élisée a refusé ? C'était là, à portée de main, quel gâchis ! L'occasion est trop belle et il se précipite donc pour récupérer finalement le double de ce qu'il avait demandé à Naaman. Et pour dans toute cette situation, Gehazi va mentir à deux reprises. Une fois vis-à-vis de Élisée, en parlant de ses deux serviteurs qui sont arrivés. Et une deuxième fois, en disant à Élisée, en fait, je n'étais nulle part. Mais Élisée va le confondre dans son mensonge, parce que Dieu le lui a révélé. Et Gehazi termine, regardez le contraste, il termine lépreux. Il termine dans la même condition que Naaman était au début de notre texte. Premier verset, Naaman est un homme qui a du succès, mais qui est lépreux. Dernier verset, Gehazi, un homme de Dieu qui devient lépreux. Alors j'aimerais brièvement sortir trois enseignements de ce récit. En plus de tout ce que nous venons d'apprendre sur Dieu au travers de ce parcours de Naaman, la première chose, c'est que Dieu désire l'exclusivité de notre adoration. Il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la terre et il désire avoir la place centrale de nos vies. Il veut être le seul à être adoré. Et il avait donné dix commandements à son peuple, dont les deux premiers étaient ceux-ci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et le deuxième, tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Si Dieu a placé ces commandements à la deux premières places, c'est dire l'importance pour Dieu d'avoir cette exclusivité dans nos vies. Imaginez la tristesse que vous auriez si vous venez d'aider votre enfant qui était dans une difficulté et que vous l'aidez à s'en sortir et que votre enfant aille voir son doudou et lui dise « Ah, je te remercie de m'avoir aidé. Trop chouette, grâce à toi, ça va mieux. » Imaginez la tristesse. Dans votre cœur, vous direz « Non, c'est moi qui t'ai aidé, ce n'est pas ton doudou. » Quelqu'un a dit « Si Dieu n'est pas au centre de ta vie, alors quelque chose d'autre l'est. » Deuxième leçon, Dieu désire l'exclusivité de notre adoration, mais une diversité d'adorateurs. Même si Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour être son peuple et vivre une relation particulière, et que cette relation entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même donne envie à d'autres, il fallait que ça, Dieu voulait que cette relation donne envie à d'autres peuples de se tourner vers lui. Ça a été son plan pour toujours d'avoir un peuple d'hommes et de femmes de toutes nations qui se tournent vers lui et lui fassent confiance. Et cela nous a été encore rappelé ce matin avec l'histoire de Jonas vis-à-vis des Ninivites. Des siècles plus tard, alors que Jésus, Dieu fait homme, est rejeté par son propre peuple, il va citer l'exemple de Naaman. Et il va citer l'exemple de Naaman pour leur montrer qu'il est venu aussi pour sauver des personnes d'origine non juive, qui ne sont pas du peuple juif. Et alors que Jésus est rejeté par son propre peuple, que son propre peuple ne voit pas qu'il est le Messie, Naaman le Syrien se détourne des idoles vers Dieu. Jésus annonce que d'autres membres de son peuple se tourneront vers lui comme Naaman l'a fait. Troisième leçon, l'homme, l'être humain est un adorateur. L'être humain est un adorateur parce qu'il a été créé par Dieu. Nous avons été créés par Dieu pour l'adorer lui seul. Même lorsque l'homme s'est détourné de Dieu, il est resté un adorateur. Et Dieu dit dans sa parole, ils ont adoré la créature au lieu du créateur. C'est ça une idole. C'est adorer ce que Dieu a créé au lieu de l'adorer lui, le créateur. Quelqu'un a dit, tu ne décides pas d'adorer. Tout le monde adore quelque chose. Le seul choix que tu as, c'est ce que tu choisis d'adorer. Parce que Dieu est le seul Dieu sur toute la terre, abandonnons nos idoles pour l'adorer lui seul. Je termine donc avec cette question pour nous. Est-ce que ce matin, vous êtes plutôt Naaman ou plutôt Gehazi? Si vous êtes Naaman, Jésus a dit « Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Et quand Jésus dit ça, il met en contraste cette idée que gagner le monde, il y a quelque chose de temporaire. Mais que dans le fait de perdre son âme, être séparé de Dieu, il y a quelque chose de l'ordre de l'éternité. Être en relation avec le seul Dieu de toute la terre a plus d'importance, plus de valeur. Cela va durer pour l'éternité que tout ce que je peux gagner dans ce monde et qui est temporaire. Naaman avait presque tout, presque, mais il était loin de Dieu. Il était en train de perdre son âme. Je peux être la personne la plus riche, la plus puissante, la plus influente, mais pas seulement, je peux être la personne la plus gentille, la plus généreuse, la plus honnête, la plus aimable, la plus tout ce que vous voulez qui soit. À quoi est-ce que cela me sert si je passe à côté de ce qui se compte réellement dans la vie? connaître Dieu et être en relation avec lui. Il n'y a aucun mal à toutes ces choses. Le seul problème, c'est quand ces choses prennent la place de Dieu dans nos vies. Alors, quelques questions pour nous. Qu'est-ce qui est au centre de votre vie? Qu'est-ce qui est au centre de notre vie? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous rend fiers? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui donne un sens à notre vie? Quand Naaman a compris qui était Dieu, il a dit « Moi, je veux être en relation avec ce Dieu qui est le maître de la vie et de la mort, celui que je ne peux ni contrôler, ni rien exiger, et qui traite avec les hommes sur la base seule de sa grâce, celui qui donne toutes choses gratuitement. » Êtes-vous prêt ce matin, si ce n'est pas encore le cas dans votre vie, de faire confiance à ce Dieu-là? Et puis, peut-être ce matin, vous êtes croyant, vous avez placé votre confiance en Dieu tout récemment, ou il y a peut-être plusieurs années de cela. Mais tout homme a des idoles. Toujours des choses qui, malgré le fait qu'on aime Dieu, prennent d'un coup de la place dans nos vies et prennent la place de Dieu dans nos vies. Alors, deux choses que j'aimerais nous laisser. Comment identifier ces idoles? Et à partir de ce passage, j'aimerais relever deux manières. La première, peut-être, c'est regarder comment vous dépensez votre argent. Jésus a dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et un auteur a dit ceci « Votre argent coule sans effort vers le plus grand amour de votre cœur. » Une deuxième chose pour arriver à identifier les idoles de nos vies, de nos cœurs. Observez vos fortes émotions, notamment celles qui sont douloureuses ou qui vous amènent à faire des choses que vous savez au fond de vous-même qui sont mauvaises. Quand nos idoles sont menacées, cela ne nous laisse jamais indifférents. Naaman s'est mis en colère, dans une colère noire. Gehazi, il a menti. On peut avoir d'autres émotions comme la peur, comme le désespoir. Comment réagiriez-vous si on devait vous enlever votre smartphone pendant 4 jours? Abstinence totale. Comment réagissent vos enfants quand vous les privez de consoles de jeux? Après avoir identifié nos idoles, comment remédier à ces idoles? Quand Dieu me montre une idole dans ma vie, je suis invité à lui demander pardon. À chaque fois que j'en identifie une, et je dois avoir clairement la volonté de vivre autrement. Mais la volonté ne suffit pas. Je dois faire appel à Dieu. Un auteur a dit ceci. Jésus, et je vais terminer par cela, Jésus doit devenir plus beau à votre imagination, plus attirant à votre cœur que vos idoles. Voici ce qui remplacera vos faux dieux. Si vous arrachez l'idole sans planter l'amour de Christ à sa place, l'idole repoussera. Et un peu plus loin, le même auteur dit ceci, « Il est essentiel de trouver notre joie en Christ, parce que la plupart des idoles sont presque toujours bonnes choses. Si notre travail ou notre famille sont devenus des idoles dans nos vies, la réponse n'est pas d'arrêter de travailler, n'est pas d'arrêter d'aimer notre travail, n'est pas d'arrêter d'aimer notre famille, mais d'aimer plus le Christ. C'est le tenir comme un trésor. C'est réaliser sa valeur. C'est se laisser imprégner de sa beauté et de son importance jusqu'à ce que votre cœur y demeure et goûte à sa douceur. Seigneur, notre Dieu, je veux te remercier, je veux te rendre grâce pour ta parole. Merci parce que ce passage nous révèle quelque chose de ton cœur, quelque chose de qui te fait vibrer. Tu nous as créés, Seigneur, pour nous aimer. Et tu nous as créés pour qu'on puisse être en relation avec toi et qu'on puisse t'aimer en retour. Cet amour que tu as pour nous, Seigneur, est quelque chose de tellement précieux. Et nous l'avons rejeté. Alors, Seigneur, que si ce matin, l'un ou l'autre d'entre nous s'identifie à son âme, Seigneur, que tu puisses te révéler au travers de ta parole, te révéler à nous et nous rappeler combien tu es ce Dieu qui nous aime, qui n'est pas notre ennemi, mais qui veut être en relation avec nous, parce que tu sais que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour chacune de nos vies. Et Seigneur, peut-être que ce matin, nous sommes comme Gehazi et nous identifions des idoles dans nos vies, des choses qui prennent une place beaucoup trop importante, Seigneur. Alors Seigneur, apprends-nous là aussi à regarder à ta parole, à passer du temps avec toi, parce que plus on aura les regards fixés sur toi, plus on se laissera émerveiller par la beauté de qui tu es, de ce que tu as fait pour nous, plus nos idoles pâliront, et plus tu les remplaceras et tu garderas cette place dans nos vies, Seigneur. Seigneur, viens à notre secours, parce que l'on soit Naaman ou que l'on soit Gehazi, Seigneur, on ne peut pas s'en sortir par nos propres forces. Mais on désire que tu agisses dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.